Bonjour et bienvenue sur mon postpartum, le podcast qui s'intéresse à la maternité, au postpartum, mais pas que. Je suis Sarah Demir, créatrice et hôte de ce podcast. J'ai aussi deux enfants, et ces dernières années, plusieurs questions et réflexions ont traversé mon esprit sur la place des mères au sein de la société. Pourquoi cela n'était pas inné et évident? Est-ce que c'était normal de se sentir aussi seule? Pourquoi les femmes n'osent pas parler de leurs difficultés? Sont-elles réellement écoutées? Comment se fait-il que ces sujets ne soient pas davantage politisés? Et surtout, existe-t-il des solutions pour s'en sortir? J'ai coutume de dire que le postpartum est le premier chapitre de cette grande aventure parentale. Alors parlons-en. Ici, vous trouverez des témoignages sincères, touchants et bien souvent percutants. Il y aura également des professionnels avec qui nous pourrons comprendre certains aspects scientifiques, sociaux, psychologiques et politiques de la maternité. Pour cette nouvelle saison, j'aimerais aussi vous parler de mon propre vécu, et de tout ce que j'ai appris depuis que je suis devenue mère. Enfin, j'espère qu'à travers cet espace, vous pourrez trouver du soutien, du réconfort et déculpabiliser. Pour soutenir mon postpartum, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur vos applications d'écoute, à partager vos épisodes favoris et pourquoi pas à me laisser un commentaire. Ça me ferait très plaisir. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve encore une fois pour un épisode solo. Pour celles et ceux qui ont écouté le dernier épisode, vous savez que j'ai fait un épisode duo, donc j'ai eu une invitée particulière qui est Tinuane Femme, la créatrice du podcast La Reprise et l'autrice de l'essai La Reprise. Et donc ce livre et ce podcast traitent justement de la réalité des conditions de reprise du travail pour les mères après la naissance, c'est-à-dire quelques semaines après la naissance, vu qu'en France on doit souvent, quand on n'a pas le choix, reprendre le travail à 2 mois et demi. Et du coup, ça m'a rappelé, c'est un épisode que je voulais faire depuis longtemps, mais ça a ravivé un peu mon analyse de comment moi, j'avais évolué, comment la maternité avait vraiment changé mon rapport au travail, ou en tout cas comment ça l'a amplifié. Pour ça, on va, comme d'habitude, revenir dans le passé pour que je puisse vous expliquer comment moi je me situais par rapport au travail. Alors, il faut savoir que j'ai travaillé assez jeune quand même. J'ai toujours eu le goût du travail. J'ai toujours cherché à faire des petits boulots, que ce soit du babysitting, être animatrice, vendeuse, caissière. J'ai travaillé dans des vestiaires. Enfin voilà, j'ai eu quand même plusieurs expériences professionnelles en parallèle de mes études. Donc pour moi, c'était quelque chose d'extrêmement normal de travailler d'arrache-pied pour avoir son indépendance, pour avoir son propre argent et peut-être aussi probablement parce que j'avais toujours vu mes parents travailler. Et c'est vrai que mon père, c'est vraiment un gros bosseur et c'est un bosseur passionné. Il fait un métier qu'il aime énormément et du coup, il a toujours travaillé. D'ailleurs, il travaille toujours encore parce qu'il a... Il a du mal à s'arrêter, alors qu'il est en âge largement de le faire. Et moi, j'ai toujours eu ce modèle. Donc pour moi, la réussite passait par le travail, en fait. Le travail reflétait une certaine réussite. Ce que je vous dis là, c'est une analyse que j'ai que depuis peu. Je pense que quand j'avais 17-18 ans, je n'analysais absolument pas ça. Mais voilà, je cumulais le truc et j'avais beaucoup ce truc de... je serais très probablement carriériste. Je crois que je vous avais expliqué dans un autre épisode que la maternité chez moi n'avait pas du tout été une évidence. J'ai eu mon premier enfant autour d'une grossesse surprise. Donc je ne me projetais absolument pas dans une configuration où il y aurait une vie de famille avant toute chose, où ça serait les enfants avant tout, etc. etc. C'était d'abord mon épanouissement à moi, et cet épanouissement, en tout cas à l'époque, je pensais, allait passer par le travail, et le travail du matin au soir, sans compter ses heures, en faisant quelque chose d'important, en faisant quelque chose qui me plaît, bien payé, etc., etc. Sauf que avant de devenir mère, j'ai commencé à avoir un flou parce que j'avais terminé mes études, enfin à moitié, je suis arrivée jusqu'à la licence, je l'ai passée. J'ai travaillé en parallèle en tant que freelance, j'ai été dans le milieu de la communication et un petit peu du marketing. Donc j'ai été assistante de communication, j'ai été attachée de presse junior, voilà, j'ai essayé plusieurs expériences comme ça qui ont été plutôt bien, qui m'ont appris pas mal de choses. Mais progressivement, je me rendais compte que c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Enfin, je sais pas, il y avait un... C'était sympa, mais voilà, ça ne me portait pas plus que ça. Voilà, ça ne me portait pas plus que ça, et je sentais au fond de moi que c'était pas la voie à suivre. Donc déjà, j'avais commencé quand même, avant d'être mère, à me poser des questions sur quelle était quand même ma place un peu dans ce monde. Est-ce que j'allais vraiment être une personne comme beaucoup d'autres à enchaîner les choses un petit peu de façon traditionnelle après ses études, enchaîner tel ou tel boulot dans une grosse boîte, essayer de viser promotion sur promotion, etc., etc. Ce que je ne juge absolument pas, mais à l'époque, en tout cas, ça me questionnait. Je me demandais si vraiment ça me plaisait. Et il faut savoir aussi qu'en parallèle de ça, parce que j'ai toujours fait plein de choses à la fois, j'étais très portée sur la santé. Sur la santé, j'ai toujours eu un rapport avec la santé assez étroit et très tôt. C'est-à-dire que ça a commencé par les produits naturels et c'est venu aussi parce que j'ai fait de l'eczéma très jeune et de façon très virulente. Donc forcément, à un moment donné, quand on voit que tout ce qui est issu de la pétrochimie ne marche pas, ben on finit par essayer d'autres choses qui sont souvent plus naturelles, un peu plus saines et moins lourde pour l'organisme. Et c'est là où j'ai commencé à être beaucoup plus sensibilisée à ces questions. Et une sensibilisation et une question en amenant une autre a fait que j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la santé un peu en 360 et qui a fait que je me suis posé la question d'une potentielle reconversion en naturopathie. Parce qu'en voyant ce métier-là, je suis tombée un jour par hasard, je me suis rendu compte que c'était un truc qui me plairait vachement en fait d'être... Voilà, un espèce d'éducateur, une éducatrice, pardon, d'hygiène de vie, de comprendre un petit peu les causes, hein, les causes réelles et beaucoup plus profondes, de prendre l'être humain dans son entièreté, de ne pas m'intéresser seulement aux symptômes, d'être dans la prévention, dans l'accompagnement. Je trouvais ça vraiment intéressant. Donc pendant ce laps de temps, je faisais beaucoup de recherches, j'avais un petit boulot à temps partiel. Puis après, j'ai été licenciée et j'ai aussi eu un éveil spirituel, en tout cas qui était déjà là mais qui s'est accentué et où j'ai décidé de porter le foulard. Et pour celles et ceux qui vivent en France, vous connaissez quand même les réalités, hein, que vous soyez musulman, musulmane ou non. C'est compliqué d'arriver sur le marché du travail, en tout cas... Il y a une dizaine d'années, c'était compliqué. Ça l'est un peu moins maintenant parce qu'il y a des choses qui sont mises en place et c'est très bien. Mais à l'époque, c'était compliqué. On savait d'ores et déjà que même en faisant des entretiens, qu'en postulant, il y aurait peu de chances qu'on ait des retours positifs à cause de ça, malheureusement. Et donc du coup, j'étais un peu dans ce flou jusqu'à ce que je me décide à faire une formation. À faire une formation donc pour devenir naturopathe. Et ça, c'était entre 2015 et 2016. J'ai un peu bataillé pour avoir un financement du Pôle emploi à l'époque, mais ça a marché presque un an après, et j'ai commencé cette formation. Et j'étais vraiment la plus heureuse parce que ça me correspondait énormément, j'avais vraiment l'impression d'être à ma place. Et encore une fois, à partir du moment où le truc était lancé, moi je fais pas les choses à moitié, donc j'étais vraiment à fond dedans, je me projetais en me disant « voilà, j'aurai un cabinet, je ferai ci, je ferai ça, je ferai ci ». Là j'en ris, mais à l'époque quand j'ai appris cette nouvelle, je suis tombée de 15 étages. Au début de la formation, j'apprends que je suis enceinte. Voilà, j'apprends que je suis enceinte et là je vous avouerai, j'avais l'impression d'avoir vécu un ascenseur émotionnel, c'est-à-dire limite la veille, j'étais aux anges parce que je commençais ma formation, tout allait bien, tout était aligné et bam, on m'apprend que... Enfin, j'apprends d'ailleurs toute seule d'abord, suite à un test de grossesse, que je suis enceinte, et là, c'est juste horrible. C'est juste horrible. Vraiment, des fois, je culpabilise d'avoir été dans cette réaction-là, mais en même temps, quand des choses vous tombent dessus alors que vous y attendiez pas, bah, des fois, voilà, soit vous accueillez le truc avec bienveillance et résilience, soit vous vous dites, vous êtes un peu dans le déni. Chose qui a été mon cas. Et du coup, ça a commencé à me perturber, parce que je me suis dit, mais attends... Parce que dans le fond, je savais qu'en ayant un enfant, ça allait compliquer quand même la progression professionnelle. Et encore, j'étais loin du compte, hein, comme d'habitude. Mais j'ai décidé à ce moment-là de ne pas me laisser abattre. Donc j'ai continué ma formation coûte que coûte. J'ai été, je crois, limite en cyborg. J'ai validé énormément de modules. C'est-à-dire que à la base, c'est une formation que les gens font en moyenne entre un an et demi, deux ans. J'ai validé 80% du programme en 9 mois. Même moins d'ailleurs. Un peu moins. Après, il me restait évidemment la préparation du mémoire, la soutenance, etc. Mais je voulais absolument valider le maximum de choses avant d'avoir mon fils, parce que je savais dans le fond que c'était un peu l'inconnu et je savais pas si j'allais pouvoir donner la même énergie, etc., etc. Chose que j'ai bien faite, parce que bien évidemment, quand j'ai eu mon fils et que j'ai été en plein postpartum, en pleine découverte, autant vous dire que j'avais absolument pas la tête à réviser Et même si j'avais la tête à ça, j'étais épuisée. Mais j'ai eu de la chance, j'ai fait partie d'une école voilà, qui était quand même relativement bienveillante. La directrice étant elle-même mère de plusieurs enfants, connaissant les réalités équilibre vie perso-pro, a été très, très bienveillante avec moi, ce qui fait que j'ai pu passer ma soutenance en décalé et finalement valider tout mon cursus avant les 1 an de mon fils. Et à cette époque-là, il faut savoir que j'étais quand même un peu dans un déni, c'est-à-dire que je me rendais bien compte que c'était très difficile de concilier vie pro, vie perso, mais je n'avais pas lâché l'affaire. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même lancé un cabinet, j'en ai même lancé 2. J'ai été formatrice au sein d'une école, je faisais des consultations en ligne, des ateliers, tout en gérant mon fils quasiment à temps plein parce qu'il n'était pas gardé. Enfin, je n'avais pas trouvé de place en crèche ou en structure, hein, tout simplement. C'est venu un petit peu autour de ses 1 an. Mais avant ça, voilà, je me démenais pour le faire garder ici et là par les proches. Et autant vous dire que c'était une gymnastique physique et mentale qui était juste impressionnante. Vraiment, avec le recul, je me dis, mais comment j'ai fait pour m'infliger des trucs comme ça? Et donc oui, avec le recul, je me rends compte que vraiment, je me malmenais parce que j'étais fatiguée, épuisée. Mais j'avais l'impression que là, avec le recul, je me rends compte, c'est comme si j'avais fait partie d'un train à grande vitesse, un TGV. Je suis devenue mère, je n'avais plus les capacités d'aller aussi vite, mais je continuais à puiser dans des réserves qui n'étaient quasiment pas là. Pourquoi finalement? Pour essayer de prouver que j'étais toujours la même personne, que j'étais toujours opérationnelle, que j'étais toujours comme avant. Et ça, c'est vrai que c'est complètement bête. Vraiment, je regrette en fait d'avoir eu cette posture-là. Mais en même temps, dans mon entourage, il y avait personne qui s'affolait de ça. Ça semblait tellement normal en fait d'essayer de reprendre sa vie comme elle était et de ne pas laisser un enfant tout changer, alors que non, finalement, tout change. Et moi, j'étais frustrée envers moi-même parce que j'avais pas encore cette vision très politisée de la maternité et des discriminations qui en découlent et des inégalités et de ce qu'on attend des mères en général. Donc, je m'auto-flagellais moi-même, en fait. J'avais de la frustration parce que je me rendais bien compte que je n'arrivais pas à être performante dans tous les domaines de ma vie, à savoir le travail, parce que forcément, je pouvais pas travailler à temps plein, même si j'ai repris beaucoup de choses. Je ne l'ai pas repris à temps plein parce qu'un cabinet, enfin voilà, quand vous êtes à votre compte, le rythme est parfois différent. Même quand j'étais formatrice, je pouvais pas être là tous les jours parce que j'avais mon enfant à gérer, donc j'arrivais à faire aller un temps partiel. Mais finalement, gérer mon enfant aussi au quotidien est une forme de travail, donc je ne m'arrêtais jamais. Les nuits étaient pas complètes, je l'allaitais encore, enfin vraiment. Et j'étais frustrée en fait de ne pas réussir comme je le voulais, de ne pas arriver comme je le voulais. Je n'avais absolument aucune bienveillance envers moi-même. Et ça, vraiment, je le regrette profondément, mais j'ai envie de dire mieux vaut tard que jamais. Et donc, finalement, en grandissant, on a un petit peu trouvé un rythme. Voilà, il a eu 2 ans, etc. J'avais un bon rythme, j'arrivais à travailler, toujours à temps partiel. Et je suis tombée enceinte de ma deuxième. Donc ça, après, c'était pas du tout une surprise. C'est quelque chose qu'on voulait, parce qu'on était bien, on avait trouvé un bon rythme de croisière. Et on se disait naïvement qu'un deuxième enfant ne changerait encore rien, parce que ça y est, on est rodé, on a de la bouteille, etc. Que nenni Là, j'en rigole encore plus. Alors bien évidemment, là, je parle seulement de mon vécu. Voilà, celles et ceux qui ont déjà un enfant et qui veulent potentiellement se projeter avec d'autres enfants. Voilà, chacun voit avec ses configurations, mais c'est vrai que moi, je ne m'attendais pas à ce que ce soit difficile sur d'autres aspects et j'y viendrai. Donc, je suis enceinte de ma deuxième. Forcément, deuxième grossesse, c'est très différent. J'ai continué à travailler un petit peu en 2019, mais voilà, gérer un enfant en bas âge, le travail, puis la grossesse, même avec un compagnon très présent, parce que c'était mon cas, hein, mon mari était quand même très présent, en tout cas autant qu'il le pouvait, eh bien ça ne suffit pas. Ça fait que voilà, il y a toujours des choses qu'on doit un petit peu sacrifier. Et pour ma part, c'était un petit peu encore le travail et ça me frustrait. Mais voilà, je ne me décourageais pas, je me disais que voilà, une fois mon bébé mis au monde, j'essaierais de trouver une structure et de reprendre tant bien que mal avec tout ce petit monde à gérer. Mais il s'est passé 2 événements majeurs qui ont complètement drivé les années qui ont suivi, et je pense qu'on a été nombreux et nombreuses dans cette situation. Donc premièrement, il y a eu la grève. Personne n'en parle vraiment, mais avant le confinement, il y a eu une très grosse grève en Île-de-France qui a paralysé vraiment la ville, et puis surtout que nous, à Paris, voilà, les grèves, tout ça, on ne sait pas du tout s'en sortir, ça part dans tous les sens, c'est vraiment le chaos. Et moi, à ce moment-là, j'avais un cabinet. Et donc, c'était très compliqué parce que forcément, j'avais beaucoup d'annulations de rendez-vous par rapport à l'époque. Voilà, c'était difficile. Donc finalement, j'ai décidé de le fermer début 2020. Donc avant le confinement, j'ai décidé d'arrêter, de m'arranger avec la propriétaire en disant, voilà, écoute, je suis enceinte, je suis en pleine grossesse. Je vais me concentrer sur d'autres aspects qui est les consultations en ligne et éventuellement les ateliers et en attendant l'accouchement. Et puis on verra l'année prochaine si je reprends un local ou non. Donc bon, ça c'était fait, j'ai continué un petit peu à bosser en ligne et puis là, forcément, vint le jour fatidique du confinement qui a bien duré, je crois, 2 mois et demi quand même, hein, de mi-mars à mi-mai à peu près, ou début mai, et dont personne ne s'attendait. Enfin, moi, personnellement, je me dis, ouais, ils vont confiner, mais quand même pas à ce point-là. Et puis, c'était tellement nouveau, c'était tellement... C'était tellement inédit qu'on savait pas où mettre les pieds. Bon, moi, franchement, Dieu merci, ça s'est très bien passé. En tout cas, le confinement en lui-même s'est bien passé, dans le sens où notre enfant, on a réussi à le gérer, mon mari était en chômage partiel. Moi, ça a été un petit peu compliqué en termes de santé, j'ai fait pas mal d'allers-retours à l'hôpital pour des analyses, pour des hospitalisations, mais globalement, ça a été. Et ce que je vous avais pas dit, c'est qu'en 2019, c'est là où j'ai lancé mon compte, mon postpartum, parce que tout le monde me demande si j'ai lancé, si j'ai fait partie en fait de la grande vague de l'hashtag mon postpartum. Et non, moi j'étais là bien avant parce que j'étais déjà très sensibilisée aux questions du postpartum à travers même mon métier de naturopathe, et donc j'avais décidé de faire un compte en me disant que ça serait un espace où voilà, on pourrait échanger sur cette thématique là, sur le fait de devenir mère. Et depuis, ça a pas mal évolué, mais voilà, en parallèle je faisais ça, et c'est vrai que pendant le confinement, bah voilà, je partageais pas mal et tout. J'ai un petit peu levé le pied sur ce point là aussi parce que j'avais envie de me concentrer sur ma fin de grossesse, sur l'accouchement et sur les débuts du postpartum, parce que je n'avais pas envie de faire les mêmes erreurs. Et les choses ne se sont pas passées comme je le pensais, encore une fois. Alors, l'accouchement s'est très bien passé, vraiment très très beau souvenir pour moi. Le postpartum a été beaucoup plus rude, par contre. Beaucoup plus rude, tout simplement parce que bah voilà, ma fille avait des petits soucis de santé à ce moment-là, c'était compliqué, j'étais fatiguée. Finalement, j'avais le contre-coup de tout ça, en fait, de toute cette année où j'avais dû composer avec plein de choses et je m'en rendais pas compte encore une fois à ce moment-là. Mais voilà, vivre un confinement, du stress, être hospitalisée, avoir des proches malades, gérer un enfant petit, puisque mon fils à ce moment-là, pendant le confinement, il avait 2 ans et demi, ce qui est très petit, il comprenait pas. Et en plus, c'était un enfant très dynamique, vraiment, à la limite de l'hyperactivité, qui a besoin de sortir, qui a besoin de bouger, qui a besoin de voir des gens. Et donc, essayer de le contenir, de le canaliser, c'était quand même un travail du quotidien. Et puis, l'accouchement. Et finalement, moi j'ai accouché en juin et donc ça faisait qu'on se retrouvait en vacances scolaires. Et donc mon fils n'était pas en collectivité depuis des mois. Et ça allait continuer jusqu'à septembre. Donc il fallait gérer notre enfant, un nouveau bébé, un nouveau rythme, beaucoup de chaleur parce qu'il faisait chaud, hein, c'était l'été. Les impératifs du quotidien. Et du coup, bah, franchement, j'avais pas du tout la tête à travailler. J'étais pas du tout en état, c'était pas du tout un sujet. Mon fils a repris donc... les bancs de l'école, la route hein, de l'école, ce n'était pas plus mal, bien entendu. Et je me rendais compte que mon épuisement continuait. Je voyais bien que j'étais fatiguée, même si, encore une fois, j'essayais de tirer, de donner le change, J'ai toujours un peu ce truc de voir les choses un peu pas à pas, chaque jour. Je me dis toujours, à chaque jour suffit sa peine, allez, jour après jour, demain est un autre jour, etc. etc. Mais ça peut être assez toxique parfois. De pas essayer de voir l'ensemble et tout, de toujours tirer sur la corde. Et donc à ce moment-là, je n'étais absolument pas en état, vraiment. C'est-à-dire vraiment là, c'était très particulier par rapport à mon premier postpartum, je n'arrivais pas à travailler. Je n'arrivais pas à travailler dans mon métier de base, à savoir naturopathie. Et tout simplement parce qu'en fait, en tant que naturopathe, on a une posture de professionnel bien-être et santé. On ne peut pas se permettre de gérer des gens qui vont mal en allant mal nous-mêmes, quoi. Il faut pouvoir accueillir ces gens-là, etc. Surtout que moi, j'avais parfois des cas très complexes de gens qui, bah, souvent, avaient fait un peu tout le corps médical conventionnel et du coup, par dépit, venaient nous voir. Je ne pouvais pas me permettre, en ayant un enfant, enfin 2 enfants à bas âge, mais une enfant à temps plein à la maison, un bébé, un nourrisson... à gérer, c'était pas possible. Donc vraiment, je n'arrivais pas à travailler. Ça m'énervait un peu, mais en même temps, physiquement même, je ne pouvais plus le faire. Même ça me rebutait presque de devoir gérer d'autres gens, alors que moi-même, en fait, j'arrivais pas à me gérer. Et donc, c'est ce qui a fait que j'ai lancé le podcast, parce que j'avais cette colère un peu qui montait en me disant, mais c'est pas juste, parce que j'ai beau essayer de tout mettre en place, de tout faire, toute seule j'y arrive pas en fait, j'y arrive pas, il y a un problème de société là, c'est pas possible. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à me rendre compte de toutes les problématiques qui commençaient à surgir, enfin qui ont toujours été là finalement, mais que je voyais d'un œil nouveau, et que j'ai commencé à suivre des comptes, à lire des choses, à me renseigner et à me rendre compte que ben, j'étais pas la seule finalement. Et donc je me suis dit, ok Sarah, t'as déjà un compte Instagram, il y a pas mal d'échanges et tout, peut-être que le podcast, le fait d'aller vers les femmes, vers d'autres femmes, d'autres mères, d'autres parents, ferait que tu comprendrais mieux les choses. Parce que moi, je le dis en toute sincérité, que ce soit le compte Mon Postpartum Instagram ou le podcast Mon Postpartum, je les ai faits avant toute chose pour moi. C'est-à-dire que c'était des questionnements que moi j'avais, des ressentis que moi j'avais, et je me disais, bah, je vais aller vers l'autre, je vais partager ça, et peut-être qu'il va y avoir une espèce de cohésion, je vais pouvoir créer un espèce de microcosme qui va faire que je vais avoir des réponses à mes questions, en fait. Et donc, bon, ça a fait qu'on en est là encore aujourd'hui, mais ça a commencé comme ça. Et donc, c'était là, avec le recul, je me rends compte à quel point ça a été thérapeutique, à quel point ça m'a permis de décompresser, de souffler, de donner un peu une dynamique nouvelle à mon quotidien qui pouvait être parfois très lourd, très redondant, très routinier, parce qu'on aime nos enfants et ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que le quotidien peut être très lourd, et surtout qu'on était on n'était plus confinés, mais on était toujours dans une ambiance de pandémie, avec des couvre-feux, avec tout qui était fermé, pas possibilité d'aller au restaurant, d'aller boire un verre, d'aller à la piscine, d'aller au théâtre, d'aller... voilà, je pense que on a tous connu ça. Et puis surtout, quand vous habitez dans des grandes villes comme Paris, quand vous fermez tout ça, bah, c'est juste mort, quoi. Il n'y a rien à faire et l'hiver arrive et tu te mets à déprimer. Donc franchement, le podcast m'a énormément aidée. On me remercie souvent d'avoir créé cette initiative. Mais moi, c'est moi qui remercie aussi les autres personnes qui ont quand même contribué de près ou de loin à ce que ce podcast, perdure. Et donc, moi, sans vraiment m'en rendre compte, hein, j'ai commencé à sombrer dans ce qu'on appelle le burn-out parental, avec des états parfois dépressifs. Et ce qui faisait que je n'étais pas capable, c'est-à-dire même aller en entreprise, ouvrir un cabinet, c'est des choses qui m'angoissaient parce que le peu d'énergie que j'avais, j'essayais juste en fait de supporter mon quotidien, de gérer ma fille qui était très difficile au niveau du sommeil et de sa santé, de gérer mon fils qui était très dynamique et très demandeur parce que cette époque-là, il avait à peine 3 ans, donc c'est très petit à gérer finalement, je me rends compte. Et donc là, j'ai commencé à me rendre compte que le travail finalement, en fait, quand il n'y avait pas la santé, quand la santé n'était pas là, le travail était tellement une option, mais lointaine. Et je me disais, mais Sarah, mais comment t'as pu perdre autant de temps à t'imaginer que c'était ça qui allait te donner un sens à ta vie, qui allait t'apporter du bonheur? Alors ça peut t'apporter du plaisir, ça peut t'apporter une sorte de bonheur, mais ça n'est pas un bonheur dans l'absolu, en fait. Et il faut vraiment que ton rapport à ça, il évolue. Bon, il évoluait déjà, mais il faut vraiment que tu prennes du recul sur ça. Donc moi, je n'ai pas travaillé tout de suite, j'ai repris qu'il y a peu de temps, finalement. Le fait, finalement, là, avec le recul, hein, presque 4 ans après, presque même 7 ans après, vu que mon fils va avoir 7 ans cet été, je me rends compte à quel point j'ai évolué. Je suis passée de la personne très noyée dans son travail, mais qui le vit très bien, quoi, qui ne se rend même pas compte dans quoi est-ce qu'elle se pose, à maintenant où vraiment je privilégie ma santé. C'est-à-dire vraiment au-delà de mes enfants, parce que j'entends souvent des gens dire, voilà, moi je privilégie la vie de famille, mes enfants, etc. Moi, c'est oui, ok, mais avant toute chose, c'est d'abord mon bien-être, ma santé, ma personne, qui va faire qu'après, je vais être en capacité de donner ça donc à mes proches. Voilà, moi, je vois ça comme ça. Puis, en fait, s'il me reste de l'énergie et si j'en ai envie et si ça me parle, là, je vais aussi vers le travail. Petit disclaimer, je peux me permettre de faire ça car j'ai un compagnon qui gagne vraiment bien sa vie et c'est pas un sujet entre nous. Il participe beaucoup plus que moi aux dépenses depuis que j'ai des enfants. On a matché le truc comme ça pour des raisons qui nous sont propres et c'est ce qui fait que je peux me permettre. Je sais très bien, je sais pertinemment qu'il y a énormément de femmes qui ne peuvent même pas réfléchir à ces questions-là parce qu'il y a un besoin financier, parce que si elles ne travaillent pas, elles ne mangent pas, les enfants ne mangent pas, ils sont à la rue. Ça, j'en ai vraiment conscience. Hein. Là, je parle vraiment que de mon vécu, mais ça ne m'empêche pas de réaliser quand même que je suis dans un certain privilège. Et donc, vu que j'ai ce privilège, on va dire matériel, j'ai pu me focaliser et me laisser le temps de me reconstruire, de m'occuper de mes enfants, de m'occuper de ma fille aussi, qui était pas mal malade, même si elle va beaucoup mieux. Elle a une pathologie qui fait que... je ne sais pas encore aujourd'hui si je pourrais prendre un boulot à temps plein parce qu'il y a des choses à faire pour elle au quotidien et qui font que je dois être là physiquement en fait. Donc ça, on le verra dans les années à venir, mais je suis beaucoup plus en paix actuellement parce que je me rends compte que certes, ce que je fais au quotidien pour moi, pour mes enfants, pour ma vie de famille, n'est pas considéré, n'est pas rémunéré, mais ça reste un travail aussi. Et donc là, je suis très contente parce que j'ai continué le podcast, je suis quand même très fière d'avoir réussi ce projet qui était pas forcément facile et qui est encore en évolution. Hein. Je n'ai pas encore atteint tous mes objectifs, mais je suis quand même contente d'avoir pu faire évoluer ce média, ce compte aussi Instagram et aussi tous les projets là que j'ai un petit peu en sous-marin qui vont sortir très progressivement. Et J'ai aussi appris en tant que parent qu'il fallait laisser le temps au temps, qu'il fallait vraiment se concentrer sur l'instant présent plutôt que d'essayer constamment d'atteindre un objectif qui n'est déjà pas toujours réalisable, mais qui sera ni profitable pour vous, ni profitable pour votre vie de famille. Et donc ça, je suis quand même contente d'avoir réussi à travailler sur ça, d'avoir conscientisé tout ça et de maintenant avancer. Alors j'ai toujours des moments où je suis un petit peu, frustrée, comme beaucoup de personnes, parce qu'on a envie de faire mille choses, parce qu'on est dans une société de performance, parce qu'on est dans une société de productivité, il faut produire, il faut performer, sinon ça va pas. Mais maintenant je relativise beaucoup plus, j'ai beaucoup plus de recul et je me rends compte, j'ai aussi de la gratitude pour ce que j'arrive à faire au quotidien, pour le fait que ma santé tienne la route, le fait que j'ai des proches, que voilà, je suis quand même heureux, je fais des choses que j'apprécie et je sais que c'est pas donné à tout le monde, donc voilà, sur ça j'ai beaucoup évolué, donc je suis très très contente. Et donc ce que je ne veux plus, en tout cas c'est sûr que pour l'instant, je sais que j'aurai beaucoup de mal à retrouver un rythme que j'avais par exemple autrefois, à savoir travailler, 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 ne faire que ça. Je me rends compte que vraiment mes priorités ont évolué, ont changé et c'est très bien. Donc maintenant moi je vais beaucoup mieux, vraiment je suis très 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 bien, beaucoup plus apaisée, beaucoup plus en phase en fait avec ma vie tout simplement. Et donc j'ai voulu faire cet épisode pas simplement juste pour étaler ma vie parce que c'est pas non plus un truc extraordinaire, mais voilà, s'il y a des personnes qui m'écoutent et qui viennent d'avoir des enfants ou ont des enfants et ont lancé des projets comme ça, qui ou en tout cas avaient des prévision sur quelque chose et qu'elle voit que ça ne marche pas ou en tout cas que ça n'avance pas comme elle le voudrait, vraiment posez-vous et regardez ce que vous faites au quotidien. Limite, listez en fait ce que vous faites au quotidien, qu'est-ce que ça vous apporte, comment vous pouvez prioriser vos tâches, comment est-ce que vous pouvez avancer mais petit à petit, parce que des fois on a envie d'aller plus vite que la musique, pour en fait avancer dans vos projets sans pour autant vous brûler. Sans pour autant vous dégoûter, parce que des fois, quand on veut aller trop vite, trop loin, et parfois l'effet inverse se produit et on finit par ne rien faire du tout et on se retrouve avec des séquelles. Donc vraiment prenez le temps de vous dire que vous ne faites pas rien, vous avancez progressivement et que le modèle de réussite qu'on nous a vendu, surtout à nous, enfin je dis nous, ma génération, les millénials, ou milléniales, je ne sais pas comment on dit, donc entre les années 80 et 90, hein, entre 30 et 40 ans, on nous a vraiment biberonné à une réussite à fond, dans la carrière, où il fallait être là partout et nulle part finalement. Peut-être de reconsidérer les choses, de reconsidérer la notion de réussite, de bonheur et de plaisir, et d'accepter ça en fait, que ça viendra peut-être plus tard, ça viendrait peut-être pas au même moment, et d'accepter que oui, on peut avoir des choses, mais pas toujours à l'instant T et pas en simultané. Donc moi, ça, c'est un des trucs maintenant qui est vraiment gravé dans mon esprit et je suis très contente parce que je sais que c'est quelque chose que je vais pouvoir transmettre à mes enfants et qui finalement, eux aussi, à leur façon, me l'ont transmis. Parce que je, toute sincérité, je pense que si j'avais pas eu des enfants, j'aurais pas eu cet électrochoc, en fait, sur qui je suis, comment j'évolue dans ma vie, comment je perçois les choses. Moi, j'ai vraiment l'impression que nos enfants sont des sortes de catalyseurs qui pointent du doigt, qui amplifient des choses qui sont là, à laquelle on prête pas attention, mais avec eux, c'est tellement violent, c'est tellement intense qu'on est obligé d'y faire face. Au début, c'est douloureux, c'est difficile, mais après, ça nous apporte beaucoup de choses. Voilà, je vais m'arrêter là, sinon l'épisode va durer encore 1000 ans. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, et puis je vous dis à très vite.